Bonjour, Coco Cash.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi. Lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans cet épisode 20, c'est Fred, alias Vieux Machin Bidule, qui vient nous parler de la naissance de sa fille et de ses débuts comme jeune papa. Papa investi, il nous livre une partie de leur histoire, l'émotion bien au-delà de ce qu'il avait imaginé, et ce, dès la grossesse, grâce à l'autonomie. Comme il le dit, il est devenu papa allaitant et milite pour que les deuxièmes parents puissent être présents lors du postpartum. Il nous avoue l'admiration et l'amour pour sa femme qui a su surmonter une dépression postpartum. Je vous laisse découvrir leur histoire et vous souhaite une très belle écoute. Je te souhaite la bienvenue, Fred.
Merci.
Je suis ravie de recueillir ton témoignage de papa.
C'est gentil, merci de m'accueillir.
Et puis je vais te laisser te présenter un petit peu, puis nous conter ton histoire comme elle vient.
Bah écoute, donc je m'appelle Fred, je suis un papa de 31 ans, ma petite fille a 2 ans et je suis marié avec Julie depuis maintenant un peu plus de 3 ans et notre petite fille a 2 ans elle, et elle est arrivée le jour de notre anniversaire de mariage un an après, le même jour pour jour, le 19.
Magnifique.
Donc la boucle était bouclée, hein, les choses sont bien faites. Oui. Les choses sont bien faites.
Au tout début, comme beaucoup de parents, on était un petit peu perdus dans nos recherches, dans ce qu'on voulait pour notre fille, pour ce qu'on voulait pour notre vision de la parentalité, et un petit peu aussi s'écarter, tu sais, de toutes ces opinions, de tous ces conseils qu'on reçoit de notre famille ou d'amis ou même de gens qu'on ne connaît pas. Mmh. Et qui pour nous étaient plus une entrave à notre liberté et, de penser plutôt que la bienveillance, si tu veux. Et donc, on s'est renseigné, on a acheté des livres, et puis on s'est dit avec Julie, tiens, au bout de quelques mois, quand Zali était là, on cherchait sur Instagram des parents, des sources, des documents qui pouvaient un petit peu nous conforter dans cette idée qu'on voulait de la parentalité, si tu veux. Et coucou, j'entends derrière.
Ouais,
et puis, ne trouvant pas, moi, si tu veux, pas de soutien, mais de conseils autour de l'allaitement et plus particulièrement du rôle du père, s'il y en a un, je me suis dit, je vais poster une photo de Julie en train d'allaiter. Une photo que j'ai prise une nuit, je crois qu'il devait être 2 ou 3 heures du matin, sur une autoroute, sur l'autoroute du soleil, pour descendre en vacances. Et je me suis dit, tiens, cette photo-là, elle est pas forcément belle, elle est simple, c'est juste ma femme qui donne le sein à ma fille au milieu d'une aire de repos, à côté de la machine à café, et c'est parti de là. Et puis bah, ça a commencé à toucher quelques personnes, et de là est parti mon compte Vieux Machin Bidule. Alors j'ai gardé le nom parce que à la base je publiais, alors, pas beaucoup, hein, je mettais quelques photos de temps en temps de vieux objets parce que je suis un fan des trucs vintage. Et donc j'ai gardé Vieux Machin Bidule parce que c'est pareil, je voulais pas non plus un compte qui s'approprie mon papa, si tu veux. Ce serait trop facile. Et puis finalement, c'est pas plus mal avec beaucoup de recul maintenant, parce que on me trouve et on me cherche vraiment si il y a l'intérêt de me trouver. Mmh. Voilà, c'est pas je cherche un papa en tapant papa, parce que ça tu peux en trouver des dizaines, hein, c'est pas un problème, et même des centaines peut-être, mais il est important que... J'aime bien me démarquer en disant, voilà, moi je propose du contenu, je propose de partager mon quotidien. Alors, c'est assez simple, hein, pas de, il y a pas de chichi. Et puis bah voilà, et puis bah, tout a un peu orbité autour de l'allaitement, et puis bah, de fil en aiguille, alors je suis pas devenu le papa allaitant d'Instagram, mais en tout cas l'homme qui en parle certainement le plus et avec le plus de liberté, le plus d'aisance, quoi.
D'accord. Okay. Est-ce que tu pourrais situer le moment où vraiment tu as eu un déclic par rapport au maternage, par rapport à l'allaitement, le soutien de ta femme? Ça a commencé dès l'envie d'un enfant?
Ça, alors, tu sais, on a beaucoup parlé de tout ça. Grossesse déjà. Après Juliette, on est enceinte très rapidement. Hein, c'était pas entre l'enlevage du stérilet et le début qu'elle était enceinte, il s'est passé à peine 2 mois. Donc pour te dire que c'était relativement très rapide. Et puis bah bien sûr, bon voilà, on parle pendant la grossesse tout ça. Mais alors réellement, s'il y a bien quelque chose qui m'a convaincu du maternage, du paternage ou du parentage, tu appelles ça comme tu veux, c'est d'avoir fait des préparations à l'accouchement. On a fait de l'autonomie.
D'accord.
Et alors ça, l'autonomie, je l'ai choisi parce que je me voyais pas faire des cours que l'on donne dans les maternités complètement banales, parce que ma femme est déjà sage-femme. Donc moi, il y a aucun intérêt. Ses copines sont sage-femmes, ses collègues sont sage-femmes. Si j'ai la moindre question, genre où sont les wawa, truc que toi, je m'en fiche, toi. Et c'est vrai que voilà, l'autonomie, c'est un outil alors que je connaissais pas du tout, que j'ai dû prendre sur moi parce que je suis plutôt quelqu'un plutôt cartésien et c'est plus que voilà, travaillant à l'hôpital depuis presque 12 ans, connaissant les murs d'un hôpital, les lieux aseptisés, froids et souvent peu chaleureux, là c'était complètement l'inverse si tu veux, voilà. On arrivait chez une dame très accueillante, loin de la tenue blanche, elle était, je m'en souviens, en sarouel, un peu, c'est pas critique, mais si tu veux, style Babylone, tu vois, très 68 art, tu vois, le truc, qui a travaillé dans des cliniques, mais finalement est revenu à l'essentiel, et dans son discours, tout de suite, j'ai été charmé, je me suis dit, ah voilà, ça me fait sortir de ma zone de confort, de choses que je connais, et je vais m'adapter à ça parce que j'ai cette capacité à plutôt m'adapter aux situations qui me font face avec plus ou moins d'aisance. Mais là, je me suis dit non, là c'est que du bonheur, ça va être quand même pour ma fille quand même, c'est pas pour rien, pour ma femme aussi. Et donc voilà, et au fur et à mesure des séances, il y a eu cette complicité qui s'est mis en place avec ma femme et avec notre enfant, parce que voilà, l'autonomie, hein, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est le principe du toucher. Et là, plus particulièrement, voilà, on appelle bébé à droite, on appelle bébé à gauche, on appelle bébé en dessous. Et on apprend au fur et à mesure comment soulager les maux de grossesse simplement. Avec amour, parce que clairement, voilà, c'est ça, quoi. Moi, je pensais sincèrement que mon rôle de père allait commencer dans cette parentalité une fois Rosaline née, et même plus loin, je pensais même que pour moi, il n'y avait qu'un intérêt, il commencerait beaucoup plus tard, à ses 1 ou 2 ans, où là, entre guillemets, elle serait intéressante. Voilà comment moi j'étais avant tout ça. Oui. Et là, je me suis dit, on me donne une chance, ma fille finalement me donne cette chance de me faire confiance alors qu'elle ne me voit pas. Elle m'entend seulement. Et là, je me suis dit, je peux pas la décevoir. Et ce petit être qui est même pas encore arrivé, même pas fini de former, me donne déjà une confiance telle qu'il est impossible pour moi après de la laisser dans un coin en disant, écoute, quand tu seras intéressante, je reviendrai vers toi. Ça, c'est pas possible. Ça, là, c'était toi dès le départ, là, je dis ça, c'est plus concevable. Et donc, tout le long de la grossesse, beaucoup de massages, beaucoup de chants. Moi, j'ai chanté énormément, en plus, voilà, j'ai une voix grave, je me mettais au ras du ventre de ma femme, je chantais, parce qu'en plus, j'ai eu cette chance de pouvoir être présent tout le long de la grossesse de Julie. Et même après, parce que voilà, j'avais eu dans ma vie un accident de travail, et j'étais en arrêt pendant presque 2 ans, et en fait, la grossesse et le début de la maternité, de la paternité est arrivé à ce moment-là. Au début, je voyais ça d'un mauvais œil, avec le recul, c'était exceptionnel. Et je le regrette pas d'être tombé, d'avoir eu un accident. Maintenant, j'ai des problèmes de santé, mais pour ça, je le regrette pas. Et j'étais là présent tout le temps. Elle a entendu ma voix le matin, le midi, le soir, tout le temps. Et tu sentais qu'il y avait déjà une complicité. C'est dur à imaginer quand on n'a jamais fait d'autonomie, hein. Mais il y a déjà cette complicité, cette confiance. Et tu parles à ton bébé comme tu parlerais à un adulte qui est en face de toi. Le jour de l'accouchement, ça nous a énormément aidé. J'ai pu soulager ma femme avec des massages, avec justement le fait de pouvoir appeler entre guillemets, Rosalie avec mes mains, elle changeait de position. Et ça, c'est Julie sentait, ça la soulageait, tu vois. Et puis, Rosalie est née. Elle a vu le jour la nuit. J'aime bien cette expression-là, mais elle a vu le jour la nuit. Et à 4h du matin. Et dès le départ, ça a commencé par, alors par une tétée, hein, la première tétée d'accueil. Tout de suite, aussitôt, hein, clac, clac. Et alors, j'ai pas pu couper le cordon parce que mademoiselle s'était fait un colis avec. D'accord. Mais, et donc, il a dû être coupé en urgence, mais ça, c'est pas très, très grave. C'est culturel et c'est un peu folklorique, moi, je trouve, mais, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé parce que ce qui a suivi après a été beaucoup plus fort. Mm-hmm. Accouchant en pleine nuit, il y a un avantage. Et ben, c'est que les gens, ils dorment.
Ouais. C'est vrai.
Et avec Julie, on avait envie de partager ses premières heures en toute tranquillité, sans notre famille, sans prévenir qui que ce soit. Et là, d'arriver à 4 heures du matin, c'était juste parfait. Et pour la petite histoire, j'ai prévenu seulement nos parents à 11 heures.
C'est-à-dire qu'on
s'est laissé du temps pour apprendre à se connaître. J'ai fait un long pot à pot parce que contrairement à ce qu'avait prédit la météo, la petite fille n'était pas si grosse que ça, elle était plutôt toute petite. Elle faisait 2,6 kg, tu vois. Et je l'ai pris contre moi pendant des heures et des heures, mais c'était tellement bon, mais pff, je veux même pas expliquer. On m'a posé cette question là cette semaine. On m'a demandé est-ce que ça m'avait comment dire, attends, je me rappelle plus le terme, c'était un journaliste hein, sur RTL qui m'a dit quelle était cette sensation que vous avez eue. Et je lui ai expliqué, je vous voyais, j'ai un parcours de vie, un parcours professionnel plus professionnel finalement qui m'a amené à passer par plein d'émotions. Voilà, moi j'ai travaillé au SAMU plusieurs années, j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai été pompier. J'ai vu des choses, j'ai malheureusement vécu des choses terribles, j'ai vu des choses terribles, et tu passes par plein d'émotions, et tu penses avoir tout connu finalement. Mmh. Voilà, à l'aube d'été, parce que j'étais papa à 28 ans, 29, tu penses vraiment avoir, pas tout connu, mais en tout cas avoir vu un beau panel d'émotions quand même, par ce que tu peux passer, et finalement ça c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui te retourne la tête, le cœur, l'esprit. Et finalement, tout ce que tu as préparé avant, pendant la grossesse, en fait, tout est remis sur la table, en fait. Mmh. Et au final, faut redistribuer les cartes.
Oui, complètement. Ça me fait penser, tu sais, au fameux « non, mais nous, on ne dormira pas avec notre enfant ». Et en fait, juste après, tu dis « attends, comment je peux me séparer ? C'est pas possible
C'est ce que me disait un copain un militaire et j'aimais bien son expression qui disait avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants.
J'adore aussi cette expression complètement.
Je trouve ça fabuleux. Et effectivement, aujourd'hui, Rosalie, elle a 2 ans. Alors elle, ça fait déjà un petit moment, depuis maintenant presque 1 an, elle a son lit dans sa chambre, un lit au sol, que l'on a mis à disposition, je précise toujours à disposition, parce que on faisait du cododo et on s'est aperçu qu'au bout d'un moment, elle en avait marre. Clairement, on a vite compris qu'elle en avait ras-le-bol. Alors, soit on faisait trop de bruit en dormant, on ronflait, ou je prenais trop de place. Enfin, relativement, c'est plus elle qui prenait trop de place que moi, mais bon, c'est pas très grave. Et on s'est dit, attends, on va lui mettre son lit de l'autre côté, et le soir, elle a le choix. Les deux portes sont ouvertes l'une à côté. Est-ce que tu vas aller dans ton lit, est-ce que tu vas dans le lit de papa? Alors actuellement, il y a plus de 90% dans son lit. Mais par contre, voilà, si elle se réveille au moindre cauchemar, il y a 2 solutions. Soit ma femme se lève et elle va la voir et il peut y avoir une tétée dans son lit parce que son lit est relativement assez grand. Ou alors, moi je me lève, je vais la chercher, je lui fais un gros câlin, elle revient dans le lit et elle termine la nuit avec nous. Et voilà, il n'y a pas de problème. Au contraire, là je trouve qu'on est sur une totale liberté. On lui laisse le choix. Les portes sont ouvertes. C'est limite parce qu'il manque une lumière, sinon elle pourrait se déplacer toute seule et dire je vais venir vous voir. Et voilà, bah, c'est ces choses-là, voilà, le cododo. Moi, l'allaitement avant, bon, j'étais pas pour, j'étais pas contre. La seule chose qui est sûre et certaine, c'est que ça ne m'a jamais choqué. Pour moi, c'est tout à fait naturel. Je suis de l'école où, pour moi, on a trop, et encore aujourd'hui, on sexualise trop les seins. Et ça c'est devenu culturel, c'est devenu folklorique.
Le corps des femmes en général, mais les seins, oui, bien sûr. Ouais,
depuis de nombreuses années, Alors je sais, hein, c'est bizarre d'entendre ça de la voix d'un homme, mais pour moi, maintenant on utilise les seins pour tout, pour vendre des bagnoles, pour vendre des montres, pour vendre des crèmes. Mm-hmm. Alors le pire, encore les crèmes, tu te dirais bon, c'est pour le corps, tout ça. Mais pour vendre des bagnoles, il n'y a pas besoin de montrer des nichons et des culs. Clairement, c'est ça la réalité. Et c'est pour ça que ça ne m'a jamais choqué, honnêtement. Et au contraire, sans savoir ce que l'OMS recommande, tout ça, bien avant tout ça, je savais qu'il y avait un sens à faire ça. Après, effectivement, je ne savais pas que ça pouvait durer si longtemps, honnêtement, qu'on pouvait faire ça pendant des années, finalement, ça peut se compter en années. Et je ne savais pas non plus que ça pouvait être si difficile que ça, aussi, parce que c'est pas si simple. Et tout ça, je l'ai découvert. Et j'en sors grandi de tout ça. Parce que ma fille m'a ouvert, sans le savoir, elle a 2 ans, mais elle le sait pas, mais elle m'a ouvert des portes extraordinaires. Enfin, j'ai eu des opportunités, même encore actuelles. Et puis, si tu veux, tout à l'heure, on pourra en parler de l'allongement du congé de paternité, qui m'a amené à rencontrer des gens, formidables, et avoir des belles surprises. Et puis, toi, tu me suis sur Instagram, donc tu le sais, mais alors j'aime pas me vanter, je reçois tous les jours je publie pas les messages des gens que je reçois parce que je trouve pas forcément d'intérêt à ça. C'est un peu comme les avis sur TripAdvisor, ça a pas d'intérêt. Mais je les garde pour moi précieusement parce que d'abord, ça flatte mon ego et ça, même s'il y a des gens qui osent pas le dire, mais la réalité, c'est que ça fait du bien. Et parce que je fais pas ça pour rien. Et surtout parce que je me dis, un jour, si ma fille, elle me dit, bah, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je dirais, j'ai fait ça. Mm-hmm. Voilà. Je crache pas sur ceux qui n'ont rien fait ou qui n'ont pas eu l'opportunité ou aussi le charisme de le faire, parce que c'est pas facile de prendre la parole comme je le fais là, même avec toi. Hein. Ouais. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, avec les bons mots. Des fois, moi aussi, je cherche mes mots quand je parle de paternité, parce que c'est tellement quelque chose qui est au fond de moi. C'est difficile de trouver les bons mots, les mots justes. Alors en plus, les mots justes, parce que bon, voilà, on va pas se mentir. Plus on a d'abonnés, et mieux vaut utiliser les bons mots, parce que sinon, on risque de choquer la moitié de la planète.
Oui, on tombe facilement dessus, c'est sûr.
Et ça, c'est très, 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 très compliqué avec le temps. Mais voilà, mais c'est vrai que voilà, pour définir les émotions qui te passent dans toi au moment où ta fille arrive, et même les premières années, c'est très difficile. J'arriverai pas vraiment forcément à l'exprimer. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je fais encore, je sais ce que je faisais avant, parce que finalement, tu vois, quand on parlait la semaine dernière, beaucoup, on en a parlé beaucoup forcément du congé paternité. Alors moi, j'aime pas forcément le nom, j'aime bien accueil de l'enfant ou parenté, je ne sais pas comment.
Congé d'accueil du jeune enfant, ça me semblerait tellement approprié.
Accueil de l'enfant, ça me semble approprié, on est d'accord. Et souvent, j'entendais beaucoup de choses. D'ailleurs, tu vois, je suis passé sur RMC dans une émission de débat et j'entendais des trucs, mais qui me faisaient sauter de 1000 mètres, qui me disaient « Ah bah oui, le papa va découvrir ce que c'est la charge mentale ». J'ai envie de dire, mesdames, si votre mari découvre la charge mentale au moment où il devient père, bah, faut vous poser des questions. Parce que la charge mentale, ça commence bien avant ça. Mm-hmm. Ça commence bien, bien avant ça. Et ça, moi, j'en ai toujours eu conscience. Et c'est peut-être dû aussi à mon éducation. Nous sommes 2 garçons à la maison. Ma mère, c'était pas la bonne niche, comme elle disait. Je suis pas la bonne niche. Et très tôt, on a été habitué à nous prendre en main comme des grands garçons, hein, voilà. On sait faire une lessive, on sait repasser, on sait faire le ménage, on sait séparer les couleurs du blanc, voilà, on sait étendre le linge, tu vois. Mais ça passe par de l'éducation dès le départ. Et comme je dis souvent, les adultes de demain, c'est les enfants qui sont là aujourd'hui. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à ce que l'on fait avec nos enfants maintenant, parce que ça va avoir une incidence sur leur futur. Mmh. Ma fille qui me voit faire à manger, ma fille qui me voit passer aspirateur, ma fille qui me voit parler avec respect à sa mère, qu'elle me voit parler avec respect aux autres, me mettre à sa hauteur, tout ça pour elle, c'est quelque chose qui est en train d'être enregistré dans sa tête. Mmh. Et tu vois, juste avant l'enregistrement, on parlait de l'IEF. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur, parce que je me dis, le jour où elle va aller à l'école, elle va se prendre une méchante claque dans la tête, qui va être terrible. Parce que le monde, il n'est pas... Parce que, on ne va pas se mentir, voilà, sur une classe de 20, combien qu'il y a de parents qui ont la même mentalité que moi? Tu vois, et ça, alors c'est.
Combien il y a d'enfants qui sont vraiment accompagnés dans le respect, en effet, c'est pas.
C'est ça, l'accompagnement dans le respect, le respect de ses émotions.
Mais ce que tu parles, c'est hyper important, en fait. C'est l'idée de neurones miroirs qui fait que les enfants vont intégrer comme la norme et puis vont vraiment vibrer ça, en fait, plus tard dans leur vie, quoi.
Mais totalement, c'est ça. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une petite fille de 2 ans qui est capable de me signer toutes les émotions, et pas les plus simples, hein, parce que même timide, elle sait me le signer, le reconnaître, même sur un livre. Un livre avec des émotions qui sont dessinées ou avec des vraies images, elle est capable de me dire si l'enfant est triste, s'il a peur, s'il est heureux. Et là, je me dis, alors, il y a 2 choses. Il y en a un où je suis assez content de nous parce que je me dis, ah, là, on a bien bossé. Et on est en train de d'aider un enfant à être en accord avec lui-même. Et je pense que c'est de connaître ses émotions, de savoir, alors pas les maîtriser, parce que j'aime pas ce mot-là, mais savoir les reconnaître, les émotions, ça permet aussi de pouvoir reconnaître celles des autres quand ça ne va pas. Et ça, rien que ça déjà, on a fait un pas en avant terrible. Ma fille qui, tu vois, on habite en ville, on habite en centre-ville. Là, c'était l'été, on avait les fenêtres ouvertes. C'était l'été, hein, parce que là, on est en Normandie, donc c'est plus l'été là. Et elle entendait une petite fille pleurer dehors. Ah, elle me signait triste, puis elle me le disait. Elle est triste, bébé, elle est triste. Et il y a une empathie dans cet enfant qui, moi, m'a très très vite sauté aux yeux et m'a complètement mis sur les fesses parce que elle est très attentive à tout ça. Tu vois, alors comme beaucoup d'enfants, hein, ça arrive, hein, alors très rarement, mais des fois elle fait des caresses un peu brutales. Je ne vais pas appeler ça des claques, mais elle fait des caresses un peu brutales. Et tout de suite, à l'expression de mon visage, je ne lui dis rien. Il n'y a pas de colère, il n'y a rien. À mon visage, elle sent qu'il s'est passé quelque chose qui m'a fait mal au fond de moi. Et là, elle me dit câlin. Ou alors, elle me signe pardon, tu vois. Et je me dis, ça, c'est génial, tu vois. Et c'est vraiment un vrai grand pas, déjà, dans l'éducation et dans la préparation à devenir une adulte.
Ouais. Ah, ça me parle beaucoup. En effet, enfin, tu prêches une convaincue, hein, carrément. Et c'est vrai que... Pour revenir à cette histoire de neurones miroirs, tu vois, c'est vraiment Catherine Guéguen qui en parle beaucoup. Moi, ce qui me semble intéressant quand tu soulèves la notion de la charge mentale, c'est qu'en effet, quand on dit avec le congé paternité, ils vont pouvoir se rendre compte, il y a plein de choses qui étaient avant, après, clairement. Je pense qu'il y a énormément de choses qui se jouent à la naissance. Quand j'entends ton récit, moi, je suis particulièrement touchée de me dire, bah oui, l'autonomie, c'est vraiment un outil qui est formidable pour que le papa puisse s'impliquer dès la grossesse. Et j'ai l'impression que finalement, alors, tout n'était pas joué avant la naissance, mais ce lien, comme tu le dis, il était déjà aussi fort, finalement. C'est pas quelque chose qui t'a frappé à la naissance, quoi, c'était bien avant.
Oui, c'est ça. C'est quelque chose que j'avais un début de conscience avant l'arrivée de Rosalie dans le ventre de sa mère, que la conscience a grandi tout le long de la grossesse, et même encore aujourd'hui, hein, j'en apprends tous les jours, et c'est ça qui est formidable, et de se laisser à soi-même cette douce parenthèse, de pouvoir se laisser cette liberté, pas de se laisser aller dans cette parentalité, mais de se laisser convaincre qu'on peut toujours apprendre quelque chose, c'est pas facile, mais je trouve ça très doux et très agréable à la fois. Parce que on apprend de ses erreurs, on le dit souvent, c'est une expression qui revient souvent, mais effectivement, c'est ça. On apprend de ses erreurs. Et alors, je dis pas que je fais que des erreurs pour apprendre, mais quand j'en fais une, je sais la repérer, je sais m'en excuser et j'en tire des conséquences, et j'en tire des conclusions. Et ça, c'est important, je trouve. Et pas que pour la parentalité. Là, on peut en parler comme ça pour tout. Hein, ça fonctionne pour tout. Moi, j'ai changé beaucoup de choses dans ma manière d'être au travail. Alors, petite chose qui aide, c'est que moi, je travaille avec des femmes quand même depuis relativement longtemps. J'ai fait mes études avec des filles. Ça commençait dans une école où il y avait 30 filles. On était 3 garçons. Après, j'ai été à l'Institut de formation aux professions de la santé à Tours. Et là, on avait, je sais plus, je crois qu'on avait 5000 élèves, il y avait 500 garçons. Et après, je suis arrivé dans les services de soins, et là, bah, souvent, en général, t'es tout seul, t'es le seul garçon. Et de voir, d'entendre, de communiquer avec toutes ces femmes que j'ai rencontrées et avec qui je travaille encore aujourd'hui, eh bien, c'est très instructif. Et j'aime bien avoir ce petit œil dégagé du coin de l'œil et de regarder mes collègues parler de leur vie, hein, simplement. Il n'y a pas besoin qu'elles fassent de grands discours. Hein. Mais voilà, il y a des petites phrases des fois qui me sautent aux yeux, qui me font saigner un peu les oreilles. Tu vois, quand je parle de charge mentale, combien de fois j'ai entendu des dizaines, des centaines de fois, tu sais, le matin, quand tu es en train de prendre ton petit café et que la veille, tu t'engueulais avec ton mari et elle te dit « Ah bah ça va, moi le mien, il est sympa, hier soir, il a bien voulu m'aider à vider le lave-vaisselle. Oh, » Putain, ça c'est des trucs, tu vois, déjà là, qui me faisaient faire des bonds de 100 mètres, hein, tu vois. Je me disais « C'est pas possible, mais non, mais c'est pas une chance. » C'est pas ça, la chance. La chance, c'est pas quand ton mari t'aide. La chance, c'est quand tu grattes et que t'as gagné 100 000 euros. Ça, c'est du vol. Ça, c'est de la chance. Ça, c'est une vraie chance. Ça, c'est pas possible. C'est pas envisageable. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et je me dis, heureusement et tant mieux que je suis comme ça. Parce que pour ma fille, et même si j'avais un garçon, encore, non, et je dirais même encore pire si j'avais un garçon, si le garçon me voyait faire ça, c'est quelque chose qu'il reproduirait, lui, plus tard, ce que tu disais tout à l'heure, hein, les neurones miroirs. Parce que ma fille, elle, ça voudrait dire que, ah bah oui, donc un homme, on doit être soumis aux hommes, et mon petit garçon, il dirait, ah bah c'est à nous d'imposer notre soumission sur les femmes. Mm-hmm. Et ça c'est pas possible. Je me permettrai jamais. Même les petites blagues sexistes, tu sais, qu'on pourrait faire comme ça, même si moi je sais comment je suis au fond, tu sais, voilà. Mais je pourrais dire à ma femme, bon allez, tu vas vider la vaisselle, bobonne. Même ça, je ne le fais pas. Parce que mon enfant, il n'est pas dans la capacité de comprendre que c'est de l'humour. Et qu'il y a du second degré dans tout ça. Et ça, c'est triste parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, mais ça, je me l'octroie pas. Voilà, ça, je me donne pas quand je me le donne, c'est que ma fille n'est pas là. Et on en rigole avec ma femme parce qu'elle me connaît. Mais voilà, même elle, hein, il y a des fois, elle me dit, bon, allez, t'es mignon, tu vas faire la cuisine et tu fais le ménage sur un ton humoristique. Ça, c'est des choses qu'on fait pas devant notre fille parce que j'ai pas envie qu'elle soit face à une confusion de qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est pas drôle, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai.
Ils ont pas le second
degré. Et voilà.
Ils ont pas la capacité de savoir encore à cet âge-là. Ça vient tard, le second degré.
Oui, ça vient tard. Ça.
C'est et puis clairement, oui, moi je suis.
Le sarcasme, c'est pas encore ça.
Moi j'ai suivi les formations de Nous Toutes, de l'asso Nous Toutes, mm-hmm. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très fort, les mots qui sont utilisés. Et en fait, toutes ces petites blagues-là, elles n'ont vraiment pas lieu d'être. Et ça entérine une normalité qui n'a rien de drôle, en vrai.
Non. Mais, et ça va dans les deux sens. Mm-hmm. Parce que moi, je ne le fais pas aux femmes, mais je ne supporte pas. Enfin, je ne supporte pas. Je le tolère moins bien quand on me le fait. Mm-hmm. Par exemple, revient régulièrement la fameuse petite phrase qu'on dit souvent aux hommes, « Vous êtes incapable de faire deux choses à la fois. Mm-hmm. » Qui, au début, me semblait relativement drôle, mais avec beaucoup de recul maintenant, me fait plus rire de tout. Ouais. Parce que d'abord, on est capable de faire deux choses à la fois. ça c'est fait. Non, c'est parce que c'est une blague sexiste.
Complètement.
Envers les hommes, certes, mais c'est une blague sexiste.
Moi, cette phrase-là, si tu veux, c'est vraiment une phrase qui me sort par les yeux. Et moi, je répète haut et fort que, bien entendu, nous, on ne sait pas forcément faire deux choses à la fois, mais au contraire, on nous a toujours dit que c'était possible. Donc, on galère en vrai. Tu vois, en tant que mère, quand tu fais plein de trucs à droite à gauche, on le fait, mais parce qu'on nous a dit qu'on pouvait le faire et parce qu'on a ce poids. Mais on galère en vrai. Si les petits garçons leur disaient qu'eux aussi pouvaient le faire, bien sûr qu'ils le feraient. Alors que là, c'est une espèce de passe-droit. Enfin, moi, je trouve ça ridicule, vraiment.
Ouais. Il y a plein de choses comme ça, des petites phrases du quotidien. Au tout début, c'est un très bon exemple. Au tout début, que Rosalie est née, quelques mois après, nous avons été dans une soirée où il y avait plusieurs enfants, quasiment pas du même âge, mais presque à quelque chose près, à quelques mois près, ils se suivent. Et il y avait plusieurs filles et un seul petit garçon. Et le petit garçon se met à pleurer beaucoup, très très triste. Et sa maman va le voir. Je pensais qu'il y avait dans l'espoir qu'elle prenne dans ses bras et qu'elle le réconforte parce qu'il n'avait même pas un an, donc je trouve que c'est important. Oui, oui. Et là, elle lui dit, oh là là, je te dirai pas le prénom, oh là là, quand même, tu vas pas te mettre à pleurer comme une gonzesse devant les filles. Eh bien, tu vois, cette phrase-là, aujourd'hui, quelqu'un me le ferait. Là, je sors de mes gonds et je rentre dans le truc parce que maintenant, j'ai les arguments pour. À l'époque, je les avais pas. Mais ça m'avait quand même fait extrêmement mal au cœur. Mal au cœur pour ce petit garçon et puis mal au cœur pour les parents. Parce qu'il y a quand même une certaine tristesse dans tout ça, un certain mal-être finalement, si on cherche bien, hein, je ne fais pas de la psychologie de comptoir, mais presque, c'est dur d'entendre ça. C'est dur. Et dans la même semaine, j'ai entendu, ça c'est quand même très fort, la même semaine, on va chez Cultura, et à la caisse, il y a un petit garçon qui pleure dans les bras de son père. Son père lui dit « arrête de pleurer ». Alors déjà, pourquoi arrête de pleurer? Qu'est-ce que ça t'embrouille? Qu'est-ce que ça t'emmerde? Franchement, il pleure. À ce moment-là, réconforte-le. Il dit « arrête de pleurer, on dirait un bébé ». Alors ça, c'est la première phrase. Et il continue en disant « pire, t'es un bébé-fille
oh. ».
Ah la vache, ah la vache. Toi, je l'ai encore, je l'ai, je vois la scène. Je peux te dire exactement à quelle caisse c'est arrivé. Le monsieur, je pourrais te dire comment il est habillé. Tellement cette scène m'a choqué. Elle m'a choqué. J'arrive pas encore vraiment à aller voir les gens en leur disant vous vous rendez compte ce que vous dites c'est de la merde en boîte parce que j'ai beaucoup de mal avec ça mais franchement t'as envie d'aller les voir et même si la violence ne résout rien t'as envie de leur mettre une claque parce que on est en train de briser en mille morceaux tout ce qui se construit dans la tête d'un enfant et en plus de briser on répare tout ce qui est cassé avec du ciment sexiste. Voilà. Alors là, je vais te dire, là, c'est bon. Là, le gamin, on va en faire un top du top. Ça va être génial. Et tu vois, ça me fait mal. Ça, tout ça. Et tout ça, ça me réconforte dans l'idée de ce que je fais tous les jours avec ma fille. Je dis pas que je le fais bien. Des fois, on me demande quel type d'éducation tu donnes à ta fille. Moi, je dis, je donne de l'éducation du bon sens. C'est pas bienveillante ou positive ou... C'est juste du bon sens. C'est ce qui me paraît le mieux, c'est même au niveau terminologie, ça reste mon avis, hein, mais c'est pour moi ce qui est le plus simple.
Après, je trouve pas ça si évident que ça, parce que tu vois, moi par exemple, l'une de mes activités, je suis éducatrice Montessori, et en fait, il y a énormément de choses en formation, notamment les formations que je propose, qui sont des formations Nido pour les tout-petits, Ou clairement, ben ouais, c'est du bon sens aussi. Mais on n'a pas tous cette même notion quand on a grandi avec énormément une éducation qui est tellement loin en fait du bon sens pour beaucoup de choses.
C'est ça. Ah ben il y a beaucoup de choses. Ah, on a beaucoup de choses. Alors la plupart des gens ont quand même beaucoup de choses à pas oublier, mais en tout cas à ne pas mettre en place comme ils ont pu recevoir. Et c'est là où ça devient sportif. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses que l'on doit remettre en question. Et pourquoi remettre en question l'éducation de ses parents? Rien que ça, déjà. C'est déjà un pas très, très, très difficile à faire.
Oui, il y a toujours le souci de loyauté, quelque part, envers ce qu'on a vécu. Le fameux « moi, j'en suis pas mort ».
Tout à fait. Ça, c'est la base de tout, ça, « j'en suis pas mort ».
Ça peut servir à toutes les sauces.
À tout.
Et du coup, petite question pour recentrer au niveau de la naissance. Est-ce que vous aviez fait un projet de naissance? Toi, tu disais que ta femme est déjà sage-femme. Donc, c'est un milieu qu'elle côtoie beaucoup. J'imagine qu'elle connaissait l'équipe en arrivant.
Ah bah, alors, c'est même mieux que ça. Parce que un des privilèges de sage-femme travaillant dans des unités de soins et dans des maternités, c'est qu'elles ont le choix de qui peut être là le jour de l'accouchement.
Wow.
Donc, Julie a pu choisir symboliquement sa meilleure amie, qui a accepté, hein, parce qu'elle n'était pas un peu obligée d'accepter, et sa meilleure amie qui est sage-femme, elle aussi. Donc, en fait, c'est la meilleure amie de Julie qui était là pour l'accouchement, qui était là ensuite aussi pour les soins de suite. Mais voilà, ça, c'est un des... Alors, je parlais des nombreux avantages, il n'y en a pas non plus des nombreux, mais des petits avantages, et ça s'en fait partie. Voilà, donc en clair, Marion, qui était notre sage-femme, était en repos ce jour-là, et en fait, elle est revenue sur ses repos et c'est payé par l'hôpital, hein. C'est comme une journée de travail, parce que voilà, c'est une autre sage-femme de l'hôpital qui a couché. Mais voilà, ça c'est, alors ça c'était notre projet de naissance, c'était de pouvoir partager ça avec elle, ce moment si particulier et si intime finalement. Alors intime dans le sens où c'est pas quelqu'un qu'on va jamais revoir. C'est quelqu'un que l'on côtoie toujours, qui voit grandir Rosalie. Rosalie appelle Tata. Donc c'est pour nous, ça a quand même un réel impact sur notre relation avec elle. Et ça c'était vraiment un vrai projet finalement. Voilà. Après, pour tout ce qui était douleur, péridurale, tout ça, on n'avait pas forcément parler plus que ça, ou en tout cas envisager autre chose que la péridurale. L'autonomie nous a beaucoup aidé, donc pour nous c'était un objectif réussi, mais Julie a eu une péridurale, et maintenant, avec du recul, avec ce que l'on connaît, ce que l'on entend, ce que l'on voit, le jour où on décidera d'agrandir la famille une seconde fois, je pense que on reverra notre projet de naissance différemment. Voilà. Alors peut-être pas pour un accouchement à domicile, et encore, j'en suis pas sûr. Je mets ça au conditionnel, mais en tout cas de rester plus longtemps à la maison, d'arriver pour dernier moment, mais presque, et puis finalement, est-ce qu'il y aura vraiment besoin de péridurale? Je ne sais pas. Ça, c'est des choses sur lesquelles vraiment on va beaucoup plus réfléchir pour le deuxième point.
D'accord. Et vous étiez préparé à l'allaitement?
À l'allaitement, eh ben écoute, non. Non, on n'était pas préparé à l'allaitement parce que, alors on a beau travailler dans un CHU avec mon épouse, et qui, elle, aide beaucoup les mamans à débuter leur allaitement sereinement. Elles passent beaucoup de temps à faire tout ça. Ce qui n'est pas le cas de tous les professionnels de santé, hein, et de toutes les sages-femmes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme de sage-femme qu'automatiquement, ça va avec l'allaitement. Hein. On ne coche pas toutes les cases. Mais en tout cas, Julie avait déjà à cœur de vouloir accompagner ces femmes dans leur allaitement. Et donc, pour elle, c'était tout nouveau. On n'a pas eu non plus mille renseignements sur le sujet, ce qui fait qu'on a dû rapidement faire appel à une conseillère en lactation certifiée IBCLC. Alors, dans notre région, il n'y en a pas 50 000, donc on a été voir la seule. Et elle nous a beaucoup aidés, parce qu'au début, on était un petit peu perdus. Rosalie tétait pas beaucoup, mais elle perdait pas de poids. Et puis, on se demandait, on se posait mille questions, tu vois, des questions qu'on aurait bien voulu avoir avant, parce qu'on serait moins inquiétés pour beaucoup de choses. Et tout ça, on a eu la réponse avec cette consultante en lactation, et Julie s'est pris de passion pour l'allaitement, et pour te resituer un petit peu l'histoire, Julie a repris le travail au bout de 3 mois, donc après son congé, et très vite ça s'est mal passé au travail. Elle a senti comment dire, un bouleversement en elle qui s'apparentait d'abord à un burn-out. D'accord. au niveau professionnel, et s'est collé à ça une dépression postpartum carabinée. Et l'allaitement, au final, alors je veux dire l'allaitement l'a sauvé, parce que c'est un peu fort comme mot, mais au final l'allaitement a été son phare au milieu de la mer déchaînée. Parce que qu'importe ce qui s'est passé dans les moments les plus difficiles, où elle était dans le fond du fond, hein, vraiment, hein, dans le noir, le plus noir, là où clairement tu prends un couteau, tu te le plantes dans la main, tu pleures même pas tellement t'es vidé d'émotions, et tu es complètement, t'es une page blanche en fait. Hein. Elle a toujours eu l'allaitement pour que sa dépression postpartum soit prise en charge. Il a fallu qu'elle aille voir un psychiatre. Alors, et une psychologue. La psychologue est la personne qui l'a certainement la plus aidée dans cette partie de son histoire. Et le psychiatre, lui, était là pour les papiers, parce qu'il fallait faire des papiers, et aussi parce que on a voulu, et on lui donne, des antidépresseurs. Il existe de nombreux antidépresseurs. Beaucoup ne vont pas avec l'allaitement, et très peu très très peu, ça se compte, je crois, par deux antidépresseurs, eux peuvent fonctionner si tu continues à allaiter. Et en plus de se battre contre cette dépression, elle a dû se battre aussi contre le corps médical parce que à chaque rendez-vous, le psychiatre lui disait « Et vous voulez continuer à allaiter ? Vous êtes sûr que vous voulez continuer à allaiter ?» Parce que vous savez, il y a des traitements qui vous feront aller mieux, beaucoup plus vite. Hein. Et Julie s'est battue. En plus de se battre contre cette dépression, elle s'est battue contre le corps médical. Elle s'est battue pour pas que l'allaitement s'arrête. Parce qu'elle sait ce qu'elle elle le sait au fond d'elle. Elle le sait par les études, elle le sait par conviction. Ce qui est bon pour Rosalie, et ce qui était bon à ce moment-là, et ce qui est bon toujours, c'est l'allaitement. Et elle s'est accrochée. Franchement, moi, je suis admiratif. Et je ne dis pas parce que c'est mon épouse, mais je suis admiratif de ce qu'elle a fait parce que pour avoir discuté avec de nombreuses personnes qui sont dans l'allaitement, qui travaillent dans l'allaitement, il est rare que les femmes qui fassent dépression postpartum continuent à allaiter aussi longuement que l'a fait Julie. Et elle le fait encore. Et vraiment, ça a été un été, vraiment, un vrai support de soutien. En plus du mien, je pense que l'allaitement l'a clairement aidé. Et au final, dans une dépression postpartum, souvent le principal problème, c'est l'enfant. Et ben là, je crois que c'était Rosalie, finalement, le meilleur remède. De se dire que même quand ça ne va pas, je sais que je peux quand même donner quelque chose à ma fille qui lui fera du bien. Et qui la fera grandir. Et ça, ça, c'est une expérience que je souhaite à personne parce que c'est très très compliqué. Mais d'où l'intérêt de la présence du conjoint, hein, quand j'ai du conjoint, le père, la mère, le deuxième père, deuxième mère, la famille, qui tu veux, la présence d'une personne après tout le long du postpartum. C'est un vrai intérêt. C'est pour ça que moi je me suis engagé dans l'allongement du et des congés parce que il y a un impact très très important de la présence du père, de la mère dans les premiers mois qui débutent avec un enfant. Il est très intéressant, le rapport des 1000 jours qui a été commandé par le président de la République et qui a été bien mené d'une main de fer par Boris Cyrulnik et qui vraiment est assez complet sur la chose et qui explique bien que cette présence à domicile dans ses premiers mois, dans ses premières semaines, dans ses premières années vont impacter tout un tas de choses. Voilà, le psychique, le psychologique, l'affectif et tout ça. J'étais content de voir ce rapport sortir parce que pour moi il a un impact, ce rapport, parce que même si le gouvernement ne le suit pas, parce que la réalité c'est ça, hein, c'est que même si on se réjouit d'un allongement du congé paternité du double, alors le double c'est un peu un message commercial, hein, finalement, parce que c'est que 28 jours alors que le rapport lui préconise 9 semaines. Voilà. Pour moi, voilà, c'est très important. Et puis, ça montre aussi dans ce rapport que l'enfant, à l'été, va avoir beaucoup moins, alors, dans les premières années, d'otite, de gastro. Rosalie, elle a 2 ans, elle a jamais eu de gastro, toi, par exemple, de gastro. Elle sera beaucoup moins atteinte par des maladies infantiles. Et puis après, sur le long terme, il y aura beaucoup moins de problèmes de santé. Et puis aussi, si on parle aussi du postpartum de la mère, moins de dépression postpartum, moins de syndrome du bébé secoué. Et toutes ces choses-là qui coûtent de l'argent à la sécurité sociale vont pas disparaître, mais vont être amoindris avec les années si on suit ces recommandations-là. Et c'est pour ça que c'est un vrai intérêt de suivre tout ça. Parce que ça y est, maintenant, on a compris, et j'espère qu'on va aller beaucoup plus loin dans cette démarche, c'est qu'on a compris qu'un enfant, justement, ce n'est pas qu'un enfant, c'est un vrai membre de la famille et qu'on doit prendre au sérieux dès le départ. Ce n'est pas une petite chose qu'on a fait à deux, qu'au début, ce n'est pas très intéressant, que plus tard, il faut l'élever comme on éduque un chien. Et encore, il y a même des animaux qui sont parfois mieux éduqués, qui on leur donne plus d'amour qu'à leurs propres enfants. Et tout ça, voilà, c'est de se dire maintenant, les parents, vous êtes informés. Il n'y a plus d'excuses de dire, ah ben on ne savait pas. Maintenant, vous avez tous les supports. On est en 2020, bientôt 2021. vous avez Internet, vous avez les bouquins, vous avez vos smartphones, vous avez tout, 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 toute la documentation va être mise sous vos yeux. Il faut que les professionnels de santé soient formés le plus possible pour éviter d'entendre des erreurs comme on peut entendre. Un pédiatre qui vous dit au bout de 6 mois, vous pouvez arrêter l'allaitement et passer au lait infantile, ça c'est de la connerie en boîte. Et tout ça, c'est un vrai intérêt. La présence et le soutien, ça c'est le béaba. Et tout ça, moi je me dis, je suis content d'y avoir participé, parce que l'idée de base était d'allonger le congé à 1 mois minimum. Mais quand on a demandé ce mois minimum avec les garçons dans la tribune, on n'avait pas ce fameux rapport. On ne l'avait pas encore. Il était en cours d'élaboration. Et quand il est sorti, on s'est dit, ah ben voilà. Voilà de l'eau à mettre dans notre moulin. Voilà des chiffres. Voilà des études. Parce qu'on aime bien ça en France. Hein. Les chiffres, les études, c'est pour prouver par A plus B. Hein. Et là, on les a. Et c'est pour ça que notre joie est un petit peu... Enfin, en tout cas, moi, ma joie est retombée un petit peu comme un soufflet. Parce que c'est très peu, finalement. C'est très, très peu. Beaucoup de gens se réjouissent. Moi, je me réjouis parce que c'est une évolution, bien mais ce n'est pas une révolution.
Oui. Et puis les 7 jours obligatoires, si tu veux, moi, c'est vraiment la partie qui pique, c'est-à-dire seulement 7 jours obligatoires, clairement.
Oui, ça, c'est pareil. Tu vois, ça, c'est pareil. Je trouve que c'est quelque chose qui me... Alors ça ne va pas plaire à beaucoup de Français, et ils auraient presque raison. On est très râleurs, mais ils ont raison. Si tu prends le modèle suédois, qui est très intéressant, et là, pour le coup, on est sur une vraie égalité, ouais. Je trouve, en tout cas, sur le couple, on te donne un an. On te donne un an à ton couple, et après, tu en fais ce que tu en veux. C'est-à-dire, autant le mari que la femme peut décider, est-ce qu'on fait moite-moite, est-ce que toi tu veux faire 6, est-ce que toi tu veux faire 4 mois, est-ce que tu penses que tu as plus envie de soutenir ta carrière, est-ce que tu veux tes carrières professionnelles, est-ce que toi ça ne te dérange pas de rester à la maison. Ça, c'est une vraie égalité. Sans obliger les gens à rester chez soi. Moi, j'ai reçu des dizaines de messages de mamans qui me disaient, oui, mais c'est bien beau, mais ça ne va pas empêcher à ce que le père aille pêcher, aille à la chasse, aille faire du black, de la peinture, de je ne sais quoi. Mais ça, malheureusement, c'est l'État ne pourra pas faire grand-chose, même en obligeant. Et puis, ce n'est plus un problème, à ce moment-là, de parentalité, c'est un problème de couple.
Oui, oui, tout à fait.
Et ça, c'est très, très difficile. Et je le sais, je le comprends. Ça c'est quelque chose que je conçois.
Oui. Après, moi, il y a quelque chose aussi qui résonne fort, si tu veux. J'ai eu la chance, ayant des enfants plus grands, d'avoir bénéficié du congé parental pendant 3 ans pour mon deuxième. Et clairement, ben, là, maintenant, on a quand même perdu une année. Donc oui, en effet, moi j'ai eu vraiment un super soutien à la maison, puisque moi, le papa de ma petite dernière est resté pendant 4 mois avec nous à la maison. Donc voilà, c'était un choix. Hein. Il a bénéficié d'aucune aide, de quoi que ce soit. C'est qu'il s'est organisé par rapport à son travail d'intermittent pour être disponible complètement. Donc ça, c'était vraiment magique. Mais à côté de ça, j'ai quand même la sensation d'avoir perdu une année, si tu veux, parce que c'était pas possible après pour lui. Et en même temps, le fameux congé parental, il n'y a que 5% des papas qui en profitent vraiment.
Oui, c'est ça.
Voilà, comme tu disais, là, le problème dans la famille, après, ça regarde à chaque famille comment ils s'organisent, mais au moins, ils ont la liberté de pouvoir être là pour l'enfant, parce que au-delà de toutes les considérations du marché de l'entreprise, de toutes les difficultés que ça peut représenter économiquement parlant, moi, je le vois vraiment comme de la prévention, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure.
Moi, ce qui me paraît important dans tout ça, c'est de se dire, le père... ou la deuxième mère, ou l'adoptant, qui veut avoir la possibilité de le prendre, a la possibilité de le faire. On n'impose pas. Peut-être qu'il y a des pères que ça ne les intéresse pas, peut-être qu'il y a des mères aussi qui diront « Non, non, mais moi, mon mari, il peut retourner travailler, ça ne me pose pas de problème. » Mais par contre, là où c'est important, c'est que s'il y a un papa qui dit « S'il vous plaît, ou je suis au milieu du brouillard, je lève la main, vous voyez le bout de ma main, parce que moi par contre, ça m'intéresse. » Et bien, c'est que cette personne-là, on ne la montre pas du doigt, on ne lui dit pas « Ah ben non, tu fais comme les autres. » Non, non, justement, à ce moment-là, lui, on l'accompagne. Lui, on lui donne toutes les possibilités de mettre toutes les chances de son côté et toutes les chances pour sa famille. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça, moi, qui me porte et qui me dit que c'est une bonne chose. Revient souvent le problème de « oui, mais c'est encore les mêmes qui vont pouvoir en profiter », c'est-à-dire les fonctionnaires, les gens bossant dans le privé, les indépendants, les libéraux, tous ces gens-là vont être mis de côté. Mmh. Alors, présentement, je n'ai pas encore le détail de ce qui va se passer. Selon les annonces du secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, la semaine dernière, il y aurait quand même une belle porte ouverte pour les agriculteurs et les libéraux pour pouvoir au mieux les accompagner. Mais le problème reste le même. Alors là, je vais rentrer dans des détails qui sont glauques, mais ça, c'est de la politique. Mais l'argent, il y en a. Ouais, c'est juste qu'il y a une vraie volonté aussi. Mmh. Voilà. Il y a deux choses. Il y a l'argent et la volonté. La volonté, on la donne, on se la donne ou on se la donne pas. Là, ils se l'ont donné à 2% pour moi. Et l'argent, qui est clairement le premier problème, parce que dans toutes les émissions de télévision, de radio, auxquelles on a pu participer la semaine dernière, à chaque fois, le problème d'argent et le problème des entreprises revient, alors que, en fait, on se trompe totalement. Mmh. Tout le monde se trompe à ce moment-là, parce que la priorité, c'est pas l'argent. Le centre de tout ça, c'est l'enfant. Et ça, n'importe quel débat qui a pu se passer à la télévision, sauf si vous êtes sur un média assez spécial et qui vraiment prend le temps de vous écouter et vraiment de voir les choses, donc loin des radios généralistes ou de la télé généraliste, on ne met pas l'enfant au cœur de tout ça, alors qu'à la base, c'est un rapport des 1000 jours pour les enfants. Mmh. Voilà. Les enfants, eux, que leur entreprise, de leurs parents, veuille ou qu'elle veuille pas, ou qu'elle trouve du pognon ou qu'elle le trouve pas, les enfants ils le savent pas, ils n'ont pas conscience et on s'en contrefou. Parce que les solutions, on peut en trouver. Il y a des entreprises en France qui y arrivent actuellement. Ça fait, en France, on compte à peu près jusqu'à maintenant 360 entreprises qui faisaient déjà ce qu'on appelle le parental act, c'est-à-dire déjà de donner un mois déjà sur leur fonds personnel, parce que ce sont des entreprises qui ont conscience qu'en donnant du temps aux parents, ils vont avoir des ouvriers, des employés beaucoup plus épanouis, mieux dans leur peau, mieux dans leur tête, et ça c'est très patronal ce que je vais dire, et plus rentable. Mmh. Parce que quand on est bien chez soi, on est bien au travail. Moi demain, parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir Rosalie pendant 5 mois avant de reprendre le travail, moi demain, Julie tombe enceinte et je n'ai que 28 jours parce que c'est ce que le gouvernement Emmanuel Macron me donne, je suis triste comme une pierre au fond de l'eau, parce que clairement j'ai connu autre chose et ça va être très difficile, et parce que c'est aussi très mal rémunéré. Là on est en train de partir sur une rémunération de plus de 75% qui est mieux que ce que c'était actuellement, mais c'est toujours pas assez. C'est pour ça que le terme révolution est complètement erroné. C'est une toute petite évolution. Moi, pour avoir fait du rugby, et si tu connais le principe du rugby, pour moi, on a juste marqué un essai, mais on n'a pas gagné le match. Mmh. Non, non. Et ça va durer comme ça pendant des années. Parce qu'il va falloir se battre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps pour obtenir plus. Parce que on a toujours un train de retard. Et là, on pense qu'avec ça, on va rattraper un wagon. Mais au final, la locomotive, elle est très, très loin. Mmh.
Complètement. Je partage à 100%. Bon, bah, je crois que ça va commencer à être pas mal.
Ben oui, écoute.
Eh ouais, carrément, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais du coup une petite phrase de la fin, quelque chose qui te semble être chouette à entendre pour les futurs parents qui auront l'occasion d'écouter le podcast?
Alors, j'ai tendance toujours à dire, quand on me demande si t'as un conseil pour les parents, je leur dis souvent, vous êtes votre meilleur allié. C'est vous qui savez. Si vous pensez que quelqu'un d'autre a la réponse à votre questionnement, pensez vraiment d'abord à votre intérieur, à ce que vous avez au fond de vous. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour mon enfant? Ça, c'est la première chose. Vraiment, le bout du bout. Après, vous pouvez demander conseil. Mais l'instinct maternel, paternel, je ne sais pas si vraiment ça existe. Mais au fond de soi, parfois, on a les meilleures réponses que dans des bouquins. Voilà.
Ça me semble très, très chouette comme phrase. Bon, merci.
Merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Libre à vous de participer et de contribuer. Vous avez la possibilité de le faire via le compte Tipeee Enfanter et devenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.